France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également sur le canal 27 de la TNT. Alors France Info, au plus près de l'actualité, vous le savez, il y a beaucoup d'épreuves en ce moment aux Jeux Olympiques de Pyeongchang qui sont annulées à cause du froid et de la neige. Eh bien nous sommes en communion avec le froid puisqu'il doit faire moins 15 ici ou moins 30 dans ce studio à France Info. C'est une manière de vivre l'actualité que nous offrons à nos invités et ils sont contents d'ailleurs d'être là dans ce froid. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent l'avocate Caroline Mécari, bonsoir.
Bonsoir.
Également l'entrepreneur et soutien d'Emmanuel Macron, Xavier Alberti, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Stéphane Vernet, bonsoir. De
bonsoir
West France.
Jean-Mathieu.
Et François Dorcival, bonsoir.
De Valeurs Actuelles.
Valeurs Actuelles.
Bonsoir. Jean-Mathieu.
J'allais terminer ma phrase, François, en effet. Et ce soir, nous parlerons d'éducation. Les maths plus le bac, c'est un peu la semaine soutien scolaire du gouvernement. On parlera réforme et islam de France. Également des nouveaux développements dans les affaires Darmanin et Hulot. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Allez, on va faire un petit verbatim au début. Prenons le cas de nos voisins helvètes qui ont une certaine tolérance fiscale. Eh bien, c'est terminé. On nous dira que c'est tardif, mais on ne pourra pas dire qu'on n'y a pas réfléchi et pensé. Ça, c'était sur France 2, émission Mots croisés, automne 2012. Des mots prononcés par le ministre du Budget de l'époque, Jérôme Cahuzac. Et avec le recul, on ne peut pas lui reprocher d'avoir pensé à cette tolérance fiscale helvète. Hein. Beaucoup pensé, même. Aujourd'hui, s'est ouvert à Paris le procès en appel donc de Jérôme Cahuzac. L'ancien ministre du Budget a été condamné le 8 décembre 2016 à 3 ans d'emprisonnement et 5 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et omission de déclaration de son patrimoine. Une affaire de morale, une affaire politique, mais également judiciaire qui a laissé des traces. Quant à la personnalité de Jérôme Cahuzac, elle est toujours énigmatique. On va entendre le témoignage d'une journaliste qui a beaucoup travaillé sur le sujet, Charlotte Chaffanjon.
La question que s'est posée pendant 15 jours le président du tribunal au premier procès, il était effectivement obsédé par ce rapport à la vérité que pouvait avoir Jérôme Cahuzac, comme si la réponse à toutes ses actions était là. Et il y a une phrase que Jérôme Cahuzac avait dit au premier procès qui dit beaucoup. Il dit « Il y a eu en moi quelqu'un qui a fait ça, ce n'est pas moi, mais c'est aussi moi. Je dois admettre que c'est une part de moi qui l'a fait, je suis donc coupable, que voulez-vous que je vous dise ?» C'est ça qu'il a répondu au
D'accord.
président. Et je trouve que finalement, ça résume assez bien son état d'esprit assez double.
Voire schizophrénique. Voilà, Charles Chaffanjon au micro d'Hercine Lebovitch. C'est vrai, Stéphane Vernet, on peut dire qu'il y a eu un avant et un après à faire Cahuzac. Véritablement, dans la vie politique, il y a quand même eu la Haute Autorité à la Transparence.
Oui, on peut dire ça. Ça fait partie des grandes affaires qui font évoluer le droit, la jurisprudence et qui transforment aussi le regard de la société sur ce type de questions. Je pense que ça fait évoluer aussi Jérôme Cahuzac parce que aujourd'hui, évidemment, enfin, on a l'impression qu'il sait plus tellement où il habite. On se souvient tous de la façon dont il avait réagi au début de l'affaire où il jurait droit dans les yeux,
yeux.
Pleine assemblée nationale. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse. Ça en dit beaucoup. Moi, je crois pas du tout à cette hypothèse de la schizophrénie. Ou d'une espèce d'absence comme ça, ou d'une phobie administrative ou bancaire qui aurait pris Jérôme Cahuzac. Moi, je trouve que ce que ça dit de cette époque aussi, c'est que à ce moment-là, pour mentir avec autant d'aplomb, c'est que je pense qu'il était persuadé qu'il lui arriverait rien. Et je pense que ce type d'impunité, en fait, aujourd'hui n'est plus possible.
Vous pensez que c'est plus possible aujourd'hui du tout, François Dorcival?
Alors, je suis de l'avis de Stéphane sur le dernier point, c'est-à-dire qu'il était convaincu qu'il ne lui arriverait rien. Pourquoi l'était-il ? Parce qu'il était également convaincu. C'est très intéressant, le dialogue François Hollande-Jérôme Cahuzac. Chacun est persuadé de ce que l'autre sait qu'il ne sait pas. C'est ça. Et c'est à la base de tout. Mais pour la suite, il est l'objet d'une série de dénonciations. Il est l'objet d'une série de dénonciations qui sont sa carrière politique et sa vie intime. C'est de là que tout part. Alors, est-ce que l'existence de la haute autorité aujourd'hui aurait empêché cela? Je n'en suis pas sûr. Parce que pourquoi est-il tellement convaincu de du fait qu'il est protégé contre tout? C'est que tout ça est enterré. Il oublie que en matière d'abus de biens sociaux, voilà, il n'y a pas de prescription.
Alors, Caroline Mécari, est-ce que ce genre, finalement, de personnalité, on a du mal, finalement, à saisir, c'est vrai, Jérôme Cahuzac, entre ce qu'il dit au tribunal, ce qu'il nous a dit, le mensonge, les excuses, puis finalement, il revient dessus. C'est courant Pas ce genre de finalement. On parlait de schizophrénie tout à l'heure. Pour vous, est-ce que c'est on peut en parler comme ça, Jérôme Cahuzac, ou non, c'est tout simplement quelqu'un qui essaye de se défendre comme il peut.
Voilà, je crois que c'est vraiment quelqu'un qui essaye de se défendre comme il peut. Voilà, c'est pas, enfin, je sais pas quoi vous dire là. En fait, de plus, une avrée, mais il est assez pitoyable dans sa défense. Peut-être que intimement, il avait la conviction que jamais on ne découvrirait les choses. Mmh. Peut-être qu'il a cherché à s'auto-convaincre, mais bon, voilà, il a été pris la main dans le sac et aujourd'hui, bon, il a été jugé, il en appelle.
Pour vous, il y a eu un avant et un après, justement
En tout cas, ce que je pense que l'on peut retenir de l'affaire Cahuzac, c'est qu'elle a vraiment été une espèce d'acmé là où la parole politique a été entamée. Parce que avoir dit devant les députés, qu'il n'avait jamais eu de compte, droit dans les yeux, l'avoir répété chez l'un de vos confrères, Jean-Jacques Bourdin, et ensuite, finalement, avouer, reconnaître qu'en réalité, il avait un compte, c'est une décrédibilisation absolue de la parole politique, et en ce sens, il a fait vraiment du mal. Alors, il y a, oui, une espèce d'avant et d'après, dans la mesure où on a tiré les conséquences de cette affaire pour mettre en place la haute autorité pour la transparence de la vie politique, ce qui est quand même une amélioration sur, par rapport au comportement que peuvent avoir les femmes et les hommes politiques.
Alors, on va continuer à en parler dans un instant de l'affaire Cahuzac, mais également d'évasion fiscale, puisque ça tombe bien, il y a une nouvelle liste qui est sortie concernant l'Union européenne, et il n'y a aucun pays de l'Union européenne. Ben, c'est ballot. On en parle dans un instant. L'info à 20h10, Julie Smul.
Nicolas Hulot décide de porter plainte contre le magazine Hebdo, une plainte pour diffamation. Hebdo a révélé la semaine dernière deux affaires d'agression sexuelle impliquant l'actuel ministre de la Transition écologique. Nicolas Hulot a reconnu une plainte pour viol déposée contre lui en 2008 et classée sans suite, les faits étant prescrits. Et puis, autre ministre dont le nom est cité dans un scandale sexuel, celui des comptes publics, Gérald Darmanin. Il est entendu aujourd'hui libre dans l'enquête pour viol ouverte contre lui. Des accusations qu'il conteste formellement. Il garde le soutien du président de la République qui l'avait dit. Seule une mise en examen provoquerait son exclusion du gouvernement. Opération anti-drogue aujourd'hui à Marseille. 250 policiers mobilisés, 16 personnes arrêtées dans une cité du 14e arrondissement. Des perquisitions dans plusieurs appartements. De la drogue, des armes et de l'argent ont été saisies. 3 médailles au compteur des Français dans ces JO de Pyeongchang. 2 remportées aujourd'hui en biathlon. 1 en or, celle de Martin Fourcade en poursuite. 1 en bronze pour Anaïs Bescon dans la même discipline. Et rugbymen du 15 de France coincé en Écosse après leur défaite hier à Édimbourg, entendu par les autorités comme témoins. On a d'abord parlé d'une bagarre les impliquant, puis d'une agression sexuelle dont ils auraient été témoins. La police écossaise indique finalement qu'aucun crime n'a été commis. Les Bleus ont pu prendre leur avion avec 2 heures de retard.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, le procès en appel de Jérôme Cahuzac s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Xavier Alberti, la fraude fiscale, ça coûte entre 60 et 80 milliards d'euros à la France chaque année. Si la peine de Jérôme Cahuzac est confirmée ou alors agrandie, est-ce que ça peut être un symbole justement pour dire attention, si vous fraudez, regardez jusqu'où on peut aller? Ou alors Jérôme Cahuzac, c'est autre chose, c'est un cas à part?
Je ne crois pas en tout cas que la lutte contre la fraude fiscale, elle passe par des symboles judiciaires. Je pense qu'elle passe par la mise en place de politiques fiscales concertées, européennes, par la mise en place de politiques économiques concertées, européennes, par quelque chose qui dépasse largement le cas de Jérôme Cahuzac. Ouais, même si l'histoire Cahuzac, c'est une histoire extraordinaire. Avoir un ministre du budget fraudeur du fisc, c'est avoir
qui luttait contre la fraude fiscale.
Une ministre de la santé, dealer de drogue, ou un ministre de l'intérieur, braqueur de banque. Enfin, c'est ça ce que ça signifie. C'est quand même une histoire dingue qui a joué effectivement une sorte d'effet d'accélération sur la fin d'une ère politique, je pense. Mais c'est pas la condamnation de Jérôme Cahuzac qui aura quelconque incidence sur la lutte contre la fraude fiscale. C'est la mise en place de politiques raisonnées en Europe.
Et pourtant, François Orcival, c'est vrai qu'on l'a vu avec l'affaire des Paradise Papers révélée cet automne. La fraude fiscale persiste, on le voit toujours. Et c'est possible d'aller plus loin encore dans le contrôle?
Mais ça ne cessera jamais. Évidemment, la bataille perpétuelle entre ceux qui trouvent les moyens d'échapper à l'impôt et le devoir de toute direction des finances publiques de rechercher les moyens de les combattre. Cela dit, dans cette période-là, il n'y a pas eu de dissuasion de l'affaire Cahuzac, mais en revanche, on a fait rentrer de l'argent qui était parti. On a fait rentrer de l'argent en prenant un certain nombre de décisions intelligentes.
Mais ça, c'est vrai que ça prend quand même aussi une ampleur politique, puisque on se souvient si Emmanuel Macron et François Bayrou, pendant la présidentielle, Stéphane Vernet, s'ils ont fait ce pacte de moralisation d'ailleurs, qui a coûté sa place aussi à François Bayrou en tant que ministre de la Justice, c'est aussi une résultante de cette affaire.
Oui,
et d'autres derrière, mais celle-là, voilà,
oui, c'est pas évident. Mais bon, enfin, comme vous dites, c'est ça a coûté sa place à François Bayrou. Non, quand on parlait d'avant et d'après, c'est pas que du point de vue du droit. Parce que moi, je crois que ce qui change beaucoup aussi, c'est que les langues se délient. C'est que aujourd'hui, en fait, on vit dans un système dans lequel on peut se dire que vous ne pouvez plus rien cacher. Il y a tout le mouvement des lanceurs d'alerte qui s'est développé.
Mais vous pourtant, on l'a vu. Paradise Papers. Oui, Paradise Papers, finalement, on l'a su, mais ça a duré combien de temps avant? Le problème, c'est que ces gens, pendant que Jérôme Cahuzac était au devant de l'actualité, ça continuait.
Non, mais c'était même avant. Oui. Paradise Papers, c'est une affaire qui a des années.
Ah, bien sûr, mais ça continuait quand même aussi, Stéphane Vernet.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux choses par rapport à la fiscalité et l'évasion fiscale en France. D'abord, peut-être qu'il nous faudra un système à l'américaine où simplement vous allez chercher, vous payez l'impôt sur votre patrimoine, quel que soit le pays où vous trouvez, quelle que soit la façon dont vous placez votre argent. Ça n'existe pas en France. Déjà, ce serait peut-être une façon aussi de limiter l'évasion fiscale. Après, il y a la problématique, par exemple, de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire les gens qui légalement détournent le système. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que dans ces histoires de Paradise Papers et tout ce qui a pu sortir autour de l'optimisation fiscale, on est dans une autre démarche qui consiste à dire ce que vous faites est peut-être légal, mais c'est pas moral. Et le fait d'être mis sur la place publique, ça a aussi un impact très fort. Et aujourd'hui, vous avez des affaires où des gens ont des comportements qui sont pas illégaux, qui restent dans les clous du point de vue du droit stricto sensu, mais qui posent question au niveau moral. Et le fait simplement de mettre ces cas-là sur la table, ça a un impact très fort et ça participe à la régulation.
Oui, Caroline Mécari, pour vous, justement, tout se sait maintenant, aujourd'hui, on est dans cette ère-là?
Je ne sais pas si tout se sait, mais je pense qu'on est quand même dans un système qui est finalement très, très hypocrite. Je peux vous rejoindre sur le principe lorsque vous dites que, en fait, la lutte contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale devrait être faite au niveau européen. Mais vous savez aussi bien que moi que s'il n'y a pas une unanimité de tous les membres de l'Union européenne, ça ne se fera absolument pas. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'en fait, on a une Europe à passoire. La liste des pays qui sont des paradis fiscaux vient encore d'être réduite comme une peau de chagrin. Il n'y a pas, par exemple, Malte. Sauf erreur de ma part, l'Irlande n'y est pas, etc., etc.
Donc, en réalité,
on s'agit de beaucoup, mais concrètement, il n'y a pas de mesures réellement qui soient prises pour lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale.
Xavier Albertis, est-ce que c'est pas un peu hypocrite quand on voit en effet les Pays-Bas, on l'avait vu Paradise Papers qui était en effet de l'optimisation fiscale, Malte, là on vient d'exclure le Panama aussi de cette liste, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie en disant non mais regardez nous comme on est propre, on est vierge là-dessus?
Il y a beaucoup d'hypocrisie parce que les modèles d'évasion fiscale,
on va parler de l'école après.
ont permis le financement de beaucoup de choses, y compris des modèles politiques, des modèles d'entreprise. Enfin, tout le monde s'en est accommodé. C'est pour ça que c'est devenu d'ailleurs une hydre gigantesque, un système gigantesque, que finalement tout le monde s'en est nourri, à commencer par les États, ou en tout cas les partis politiques, un certain nombre d'institutions. Voilà. Donc tout le monde en a joué.
Pas le citoyen lambda.
Je parle vraiment des grandes entreprises, des États, des grandes institutions. Et effectivement, le citoyen lambda, lui, vous et moi, on a continué à payer nos impôts gentiment.
Normalement.
Je pense que c'est peut-être en train de changer pour différentes raisons et peut-être des raisons plutôt réalistes. C'est que d'abord, les États ont besoin de ces entrées fiscales, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore, ou en tout cas, pas avec la même sensibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive dans des systèmes où il va falloir refinancer nos modèles et on ne sait plus les financer si on ne fait pas revenir ces sommes à imposer. Ceci étant, et je reviens sur les listes ou pas les listes. C'est pas les listes ou le fait de faire entrer des pays dans des listes ou de dresser des listes qui permettra de lutter contre la fraude fiscale. Si on veut lutter, par exemple, contre l'évasion fiscale intra-européenne, il faut un système fiscal européen avec un serpent fiscal européen qui permette de limiter les écarts entre États et qui évite que l'Irlande puisse tranquillement proposer 7% d'IS à toutes les entreprises qui viennent s'installer à Dublin.
Allez, en tout cas, on aura l'occasion de le suivre, bien sûr, ce procès Cahuzac qui va durer quelques semaines. On va parler également d'autres affaires judiciaires, puisqu'elles s'accumulent en effet en ce moment. Des affaires judiciaires concernant des membres du gouvernement. Aujourd'hui, Gérald Darmanin a été entendu dans le cadre de l'affaire qui l'oppose à Sophie Spatz, qui l'accuse de viol en 2009. Nicolas Hulot, lui, a décidé de porter plainte contre le magazine Hebdo à l'origine d'un article qu'il mettait en cause pour violence sexuelle. Hier, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, a publié une tribune pour défendre Nicolas Hulot. Et ça ne plaît pas, ça fait beaucoup discuter aujourd'hui et notamment ce matin sur France Info, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol. On l'écoute.
Je suis là parce que je suis très choquée, très inquiète, que dans deux affaires consécutives qui concernent un gouvernement, donc le pouvoir, deux ministres mis en cause sur des affaires de viol, certes pour des faits très antérieurs à leur entrée au gouvernement. Dans les deux cas, le choix qui est fait par le gouvernement, le choix qui est fait par la majorité parlementaire, c'est de dire la victime ment. Si c'était vrai que l'un et l'autre aient largement dépassé les limites du consentement, j'imagine qu'ils n'auraient plus la confiance de leurs collègues et de leurs pairs. Donc ça veut dire que le pouvoir politique s'est arrogé dans ces deux affaires le pouvoir de dire « la victime ment ».
Laurence Rossignol, ce matin sur France Info. Caroline Mécari, est-ce qu'il y a un problème justement avec ce soutien du gouvernement à ces deux ministres?
Alors, bon, Laurence Rossignol n'y va pas avec le dos de la cuillère, mais moi je pense qu'il faut distinguer la situation de Nicolas Hulot de celle de Gérard Darmanin. Parce que l'affaire, entre guillemets, Hulot met sur la place publique quelque chose qui, au regard du droit, n'existe pas. Ça ne veut pas dire que la femme qui s'est plainte, qui d'ailleurs ne voulait même pas que l'on publie son histoire, ment. Personne ne peut rien en savoir. De ce point de vue-là, mais vraiment personne ne peut rien en savoir. Donc bon, pour Gérard Darmanin, les choses sont un tout petit peu différentes. Parce qu'il y a une enquête qui est en cours, puisqu'il a été entendu ou il serait entendu. Le problème, c'est qu'on est vraiment entre la question sur le plan juridique, où normalement, chacun doit pouvoir bénéficier de la présomption d'innocence. Ça, c'est vraiment un principe absolument intangible. Et la question politique, qui est de savoir si aujourd'hui, dans un gouvernement, on peut conserver des membres qui sont accusés de faits qui éventuellement peuvent être poursuivis pénalement. Et ça, c'est un choix politique.
Alors, on va continuer à en parler de ça, de l'affaire Gérald Darmanin, Nicolas Hulot. Dans un instant, l'info à 20h20, Julie Smul.
La veuve de Johnny, Laetitia, se dit écœurée ce soir après l'annonce de Laura Smet et de David Hallyday. Les premiers enfants du chanteur contestent son testament. Tout son patrimoine et ses droits d'auteur sont en effet censés revenir à une seule personne, sa femme. La loi californienne l'autorise, pas la loi française. Il va falloir trancher une bataille judiciaire qui s'annonce longue. Nicolas Hulot va porter plainte pour diffamation contre le magazine Hebdo, magazine qui a révélé l'existence de deux affaires impliquant l'actuel ministre de l'écologie, l'une de harcèlement sexuel, l'autre de viol. Deux affaires qui n'en sont pas, d'après Nicolas Hulot. Il a reconnu l'existence d'une plainte pour viol déposée contre lui en 2008, plainte classée sans suite, puisque les faits sont prescrits. Autre affaire, autre ministre, Gérald Darmanin, entendu aujourd'hui en audition libre dans le cadre de l'enquête pour viol ouverte contre lui. Des accusations que le ministre des Comptes publics continue de nier. La démission aujourd'hui de la directrice adjointe d'Oxfam, l'ONG au cœur d'un scandale qui remonte à 2011 à Haïti. Des responsables accusés d'avoir engagé des prostituées, certaines très jeunes, en pleine mission humanitaire après le séisme sur place un an plus tôt. Deux nouvelles médailles pour la France aujourd'hui aux JO d'hiver de Pyeongchang. Une en or, celle de Martin Fourcade à l'épreuve de poursuite en biathlon. Et puis médaille de bronze dans la même discipline aujourd'hui pour Anaïs Bescon. Trois médailles en tout donc ce soir pour la France.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on l'a donc appris ce soir, Gérald Darmanin donc a été entendu dans le cadre d'une audition libre hein, dans l'affaire qui l'oppose à Sophie Spatz pour l'accusation de viol en 2009. Et Nicolas Hulot a décidé de porter plainte contre le magazine Hebdo qui avait révélé son affaire. François Orsivaï, il a raison, Nicolas Hulot, de porter plainte.
Et alors, il a raison. C'est le seul moyen pour lui d'avoir une explication judiciaire, puisqu'il va y avoir forcément traitement de cette plainte en diffamation après l'énorme ouragan médiatique qui s'est déclenché. La responsabilité du journal, elle est là. Vous êtes responsable de ce que vous écrivez. Point. Mmh. Donc, je comprends très bien ce qu'il fait, puisque vous l'avez dit, chère Caroline Mécari, avocate, vous l'avez très bien dit, en droit, il n'y a rien. Donc, la diffamation lui permet qu'il y ait existence en droit d'un vrai débat.
Quand Laurence Rossignol, qu'on a entendu tout à l'heure, dit « le gouvernement ne parle jamais des victimes », n'a pas un mot, comme dans la tribune de Marine Schiappa, toujours pour les ministres, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, quand même, d'un peu choquant ?
En politique, la présomption d'innocence n'existe pas. Voilà. Mmh. Nous sommes dans une cour d'assises médiatico-politique. Voilà. Et évidemment, Madame Rossignol, elle plaide pour son camp.
Ouais, Xavier Alberti, est-ce que là aussi Marine Schiappa n'a pas été un petit peu maladroite dans sa tribune en disant, voilà, bah, de toute façon Nicolas Hulot c'est un homme charmant, on se demande ce que ça fait là en fait, c'est pas un argument, un homme
charmant. Enfin, j'ai pas reconnu Marine Schiappa dans cette tribune-là.
Mais dans la précédente.
Oui, je la reconnaissais plus, oui.
Ah bon?
Mais là, je ne l'ai pas reconnue.
Bon, mais elle est en service commandé, tout le monde le sait.
Voilà, donc
c'est
effectivement,
bon.
On a un peu l'impression qu'elle a dû le faire. Voilà. Je ne suis pas certain qu'elle l'ait fait vraiment
Elle n'a pas le choix.
En pleine conscience. Mmh. On est quand même face à des affaires dont on ne sait pas grand-chose. Effectivement, il y a un jeu politique. Parce qu'il y a un jeu politique. Ensuite, il y a une règle. C'est celle de la jurisprudence mise en examen, non mise en examen. Je suis mise en examen, je dois démissionner. Je ne suis pas mis en examen, je ne démissionne pas. Et je ne sais pas pourquoi on ne s'en tient pas stricto sensu à cette jurisprudence-là, jurisprudence gouvernementale, s'entend. Parce que la même politique s'en mêle.
Mais Caroline Mécari, vous disiez...
C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une règle de droit. Ça a été effectivement un positionnement qui existe depuis maintenant plusieurs années.
Mais, Baladur.
Voilà, exactement, oui. Mmh. Maintenant, je pense que c'est peut-être un peu compliqué pour le Premier ministre de voir partir deux membres importants du gouvernement comme Hulot, en ce qu'il est, il est représentatif de l'écologie et bon, on va dire que c'est un étendard de cette.
Pas très important aussi au niveau.
Et Darmanin. Pareil. Donc voilà, après, voilà, c'est des choix politiques.
Stéphane Vernet, on est dans la politique ou pas? Parce qu'on voit que ce soir, Rachida Dati, donc des Républicains, dénonce, elle, le comportement des puissants vis-à-vis des femmes, reprenant un petit peu aussi cet argument, en disant on ne parle pas des victimes, on ne parle là ce soir que des hommes politiques.
Mais attendez, qui sont les victimes?
Ah ben, c'est dedans, justement.
Bah, qui sont les victimes?
Mais justement, on ne sait pas, en fait. Le problème, c'est qu'on a, là, on n'a pas les éléments pour juger. Donc la justice, elle est indépendante, elle est souveraine. Il faut qu'elle puisse faire son travail. Donc c'est aussi dans ces deux affaires, il faut qu'on puisse dire le droit. Mais ça, c'est un travail qui doit se faire en toute indépendance et de manière sereine. Et je vais reprendre l'expression de François d'Orcival. Là, on est face à un tribunal médiatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les éléments. Aucun d'entre nous autour de la table n'est capable de dire qui a raison, qui a tort, de jeter l'opprobre sur les uns ou sur les autres.
On ne dit pas d'ailleurs qui a raison, qui a tort.
Le simple fait d'en parler et de sortir les choses de leur contexte fait que de toute façon, on entretient de toute façon un soupçon. Alors il y en a qui disent ce soupçon il devrait profiter à la victime, d'autres qui disent mais qui est la victime dans cette histoire. Le problème c'est que on est arrivé dans un système où le simple fait que ce soit mis sur la place publique et que ça tourne fait que calomnier, il en restera toujours quelque chose. Moi je ne sais pas qui détient la vérité dans cette histoire. Ce que je peux vous dire c'est que médiatiquement parlant, elle a un gros impact. Ce sont des histoires qui sont reprises par l'opposition, par les médias, parce que c'est vendeur, par l'opposition parce que politiquement c'est bankable, ça marche. Et on voit bien à qui on cherche à faire du tort dans ces deux affaires.
Ces affaires, elles existent aussi. C'est-à-dire, si on en parle, c'est vrai qu'il y a une réalité. Ce soir, Nicolas Hulot porte plainte contre Hebdo. Alors on ne sait pas en effet. Voilà ce qui se passe.
Mais la diffamation,
c'est normal.
En fait,
d'en parler aussi.
Il va chercher cherchait à exercer la diffamation par rapport à la deuxième affaire, c'est celle de harcèlement sexuel, en disant c'était pas moi. Donc là, si effectivement c'est pas lui et qu'il peut le prouver, il disait qu'il était en contact avec cette collaboratrice, si c'est le cas, elle pourra dire effectivement que c'est pas du tout lui qui était visé, et là il va obtenir gain de cause. Sur l'histoire de l'affaire classée, on ne sait pas ce qu'il y a dans cette affaire, on ne sait pas pourquoi elle a été classée, mais aujourd'hui il y a prescription.
Elle a été classée pour prescription et parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments. En tout cas, c'est ce qui ressort d'une lettre. Mais bon, on n'est pas là pour juger, en fait.
On ne juge pas, c'est justement en parler aussi. C'est aussi,
nous, on n'est pas juriste.
C'est aussi notre métier, mais ça n'empêche pas aujourd'hui qu'il y a des faits, donc on peut en parler. Allez, dans un instant, on va parler de réforme d'Emmanuel Macron, notamment de l'islam de France. On parlera également éducation. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
Lui, c'est Nanouk l'Esquimau. Il a des crevasses au bout des doigts. Ça fait très mal. Heureusement, Urgo a développé Filmogel Crevasse Main. Un film transparent qui referme, protège et soulage.
Oh. Urgo Filmogel Crevasse, traitement des crevasses. Dispositif médical. Pour plus d'informations, consultez la notice avant utilisation ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.
Real Madrid Paris Saint-Germain, c'est parti pour 90 minutes de bonheur.
Le 14 février, vivez l'amour foot en exclusivité sur Beansport avec le choc Real Madrid Paris Saint-Germain. Et pour la Saint-Valentin, tentez de gagner des fleurs pour l'élu de votre cœur avec Monsieur Marguerite, spécialiste de la boxe de bouquets de fleurs et Beansport Connect, l'offre 100% digitale de Beansport. Jeu avec obligation d'achat, règlement sur beansportconnect.fr.
France Info Météo. Avec VK, concepteur de fenêtres PVC, performantes et design, pour tous vos projets de construction et de rénovation. VK, VEKA.fr.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Nouvelle dégradation demain avec du vent fort, de la pluie sur la Bretagne le matin jusqu'à l'Aquitaine. En arrivant vers la Normandie, l'est des Pays de la Loire, le Poitou, elle se transformera en neige et blanchira les sols. Il neigera aussi sur le Limousin au milieu de journée. Puis du Nord-Pas-de-Calais vers la région parisienne, le Massif central l'après-midi, quelques centimètres attendus. Ça tiendra difficilement au sol. En revanche, on aura 5 à 10 centimètres au-dessus de 500 mètres. Dans l'est, une matinée ensoleillée, de plus en plus de nuages l'après-midi. Ça s'arrangera sur le nord-ouest, retour du soleil. Encore du froid le matin, 0 à moins 6 degrés, attention aux plaques de glace sur les routes. L'après-midi, 3 degrés à Amiens et Limoges, 4 à Paris, Dijon, 6 degrés à Lyon, 9 à Nantes, Bordeaux, Marseille et 11 à Ajaccio.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin Rivet, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Deux mois après la mort de Johnny Hallyday, sa fille Laura Smet révèle que l'ensemble des biens et des droits d'artiste de son père ont été légués à sa veuve. Laetitia Hallyday se dit ce soir écœurée par cette irruption médiatique, selon ses mots. Jean-François Chenu est l'un des biographes de Johnny. La démarche de Laura Smet ne le surprend pas.
J'ai pas l'impression que ça soit un problème, je dirais, d'argent. Je pense que c'est plus le fait de se sentir totalement déshérité qui a blessé Laura et qui aussi blesse David. Ce qui est certain, c'est que elle met ça sur la place publique. On ne parle plus que de ça aujourd'hui. Mmh. C'est très dommage parce qu'il y a deux mois, c'était un hommage absolument magnifique qui était rendu à l'immense artiste qu'est Johnny. Aujourd'hui, cet hommage et cette communion, finalement, parce que tout le monde, même si on avait remarqué des trucs, hein, on avait vu que voilà, ils n'étaient pas ensemble à l'église, qu'il y en avait qui attendaient sur le parvis, d'autres qui étaient dans le cortège, que je crois David et Laura ont dû aller à Saint-Barth par leur propre vol. Enfin bon, bref, il y avait des choses qui étaient un petit peu sous-jacentes à tout ça. Mais aux yeux du grand public, les choses s'étaient merveilleusement passées et on avait vu une famille unie devant la disparition de cet artiste.
Jean-François Chenu, auteur de Johnny Hallyday, 50 ans de scène et de passion, et cette situation est permise par le droit californien. Mais le droit français exclut cette option. On ne peut pas déshériter entièrement ses enfants. En tout cas, c'était vrai jusqu'en septembre dernier. À cette date, la Cour de cassation a donné raison aux veuves de deux compositeurs, Maurice Jarre et Michel Colombier. Nicolas Hulot va porter plainte contre le magazine Hebdo, plainte pour diffamation. Action en justice après le numéro de la semaine dernière et ses révélations sur une ancienne procédure contre le ministre pour viol, poursuite classée sans suite pour prescription. C'était il y a 10 ans. Gérald Darmanin, lui, a été entendu aujourd'hui par les enquêteurs dans le dossier le concernant. Également des accusations de viol, le ministre des Comptes publics qui s'est présenté en audition libre. De la listeria détectée dans un site de production de jambon, des lots sont donc rappelés en magasin, vous pourrez être remboursé. Il s'agit de tranches de jambon supérieur commercialisées sous les marques Casino, Monoprix, Carrefour, Le Fouet et Grand Jury. Des blocages routiers ce soir, les agriculteurs inquiets de la nouvelle carte des zones défavorisées, des aides européennes selon les implantations géographiques des exploitations. La FDSEA bloque les sorties d'Auch dans le Gers. Le syndicat entend maintenir ses barrages jusqu'à jeudi. Il y a aussi des blocages autour d'Orléans et de Tours sur les autoroutes A10 et A71. Le tribunal administratif de Nîmes ordonne par ailleurs la libération du dépôt des camions bennes de l'agglomération d'Avignon dans le Vaucluse. Les éboueurs en grève depuis le 1er février. La CFTC dénonce des inégalités salariales et la disparition de primes de fin d'année. 20h33 sur France Info, Jean-Mathieu Pernin est toujours là. C'est la suite des informés.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils aiment jouer à saute-mouton dans la grande prairie de l'actualité. Ce soir, les informés de France Info reçoivent l'avocate Caroline Mécari, l'entrepreneur et soutien d'Emmanuel Macron, Xavier Alberti, Stéphane Vernet de West France, et également François Dorcival de Valeurs Actuelles. Alors, en ce moment, il paraît qu'il y a une petite interrogation dans les équipes présidentielles, c'est que faire des 4 années restantes du quinquennat? Bah oui, hein, puisqu'il paraîtrait qu'Emmanuel Macron hésiterait entre monter un spectacle de mime, s'inscrire à Danse avec les stars ou faire des vidéos d'humour sur YouTube. On imagine ça car le président et le gouvernement envisagent 6 réformes sociales en 18 mois. Voilà, du code du travail aux retraites en passant par apprentissage, donc il faudra bien trouver à s'occuper ensuite. Hein. Alors Emmanuel Macron tente les réformes sociétal et notamment concernant la réforme de l'islam de France. Il en a parlé hier, pour cela il veut prendre son temps, tranquille, voilà, et consulte en posant, explique-t-il dans une interview au JDD, des jalons et forcément ça ranime quelques pulsions chez les plus délicats d'entre nous, comme la députée européenne Nadine Morano.
Il faut fermer toutes les mosquées qui posent problème. Il faut que l'autorité de l'État reprenne ses droits dans les quartiers, et il faut aussi que cette religion qui aujourd'hui pose un problème en France. Il faut le dire, nous avons un problème avec l'islam. Nous avons un problème avec cette religion parce que nous avons un problème d'organisation, parce que nous avons un problème de ces prêches, parce que nous avons un problème de financement des mosquées.
Voilà, donc Nadine Morano ce matin sur Europe 1. Xavier Alberti, est-ce que finalement, dans une réflexion, est-ce que c'est à l'État de se charger de l'organisation d'une religion?
Elle n'a pas le choix. Ouais. En l'occurrence, ça a toujours été comme ça. Hein. C'est-à-dire que c'est pas même la laïcité ne dit pas qu'on doit pas interagir. Elle dit qu'on doit garder toutes les croyances à équidistance. C'est pas donc le fait qu'on ait pu interagir avec l'Église catholique pour s'organiser, ça a déjà été fait. La difficulté avec l'islam, c'est qu'il n'y a pas de clergé. Il faut créer les conditions pour mettre en place ce dialogue et permettre l'émergence de solutions dans l'organisation de l'islam en France. Parce que, pour le coup, il faut qu'il y ait une organisation de l'islam en France si on veut effectivement sortir des fantasmes d'un côté, mais aussi de la réalité de certaines dégradations de l'autre.
Alors, en effet, il y avait eu, je cite juste, il y avait eu le CORIF, qui était le Conseil de réflexion sur l'islam de France de Pierre Jox. Il y a eu ensuite, bien sûr, le Conseil français de culte musulman, créé par Nicolas Sarkozy. Il n'y a eu aucune de ces instances qui a eu vraiment le succès escompté. Ben oui. François Dorcival, est-ce qu'une nouvelle structure, ça peut apporter quelque chose?
Mais je crains que non. Pour les raisons qui viennent d'être dites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les imams qui prêchent l'islam en France, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas un grand imam, etc. Il n'y a donc pas de structure construite, de porte-parole, avec qui parler de manière constante. En outre, la réflexion chez Emmanuel Macron, elle a commencé publiquement, dès le mois de décembre, il est revenu en janvier, etc. Donc, ce qu'il a répété hier dans le journal du dimanche n'a rien de neuf. Il s'agit d'essayer de construire, avec les interlocuteurs qu'il trouvera, de quoi mettre un certain nombre de règles là où elles n'existent pas. Mais ça a déjà été tellement tenté qu'on se dit comment pourrait-il réussir, lui, là où les autres ont échoué. Non,
parce que c'est
et on ne peut pas dire que Nicolas Sarkozy n'ait pas eu de bonne volonté dans ce domaine. Il a fait de son mieux. Il y a un certain nombre de choses qui ont certainement avancé. Mais la formation des imams en France, on va donc créer des séminaires d'État pour enseigner l'islam. Ça va être très curieux, ça. Ensuite, le financement. Alors, on va vers une taxe halal, etc. On cherche des moyens parce que, évidemment, tout ce qui est du patrimoine de l'Église catholique précède la loi de 1905 ouais. par rapport enfin, à l'essentiel.
Voilà.
Donc tout parce ça est effectivement très complexe.
Il faut préciser juste que l'idée, et ce n'est pas nouveau, hein, déjà Bernard Cazeneuve, quand il était ministre de l'Intérieur, c'est s'extraire du financement étranger en fait, pour financer les mosquées. C'est vrai qu'on a l'impression, Stéphane Vernet, d'avoir déjà entendu ces idées-là, en fait.
Mais Bernard Cazeneuve, vous avez énoncé. Mais bien sûr, parce que le débat, il ne date pas d'hier. Mais enfin, moi, je voudrais juste avoir une dire deux, trois choses très, très simples. Il me semble qu'on vit dans un pays où la liberté de culte existe, la liberté de pensée existe. Et je pense que c'est pas à l'État de dire comment les religions, quelles qu'elles soient, doivent s'organiser. Après, effectivement, il y a un certain nombre de prêches, de mosquées ou de lieux où les lois de la République sont bafouées ou sont pas appliquées. Et c'est pas vis-à-vis de l'islam qu'il y a un problème, c'est vis-à-vis des endroits où les lois de la République sont pas respectées. Ouais. Et le problème, c'est qu'effectivement, il y a pas de clergé. Il n'y a pas l'équivalent d'une église.
Dans l'islam sunnite, voilà. Bah oui,
mais
alors,
non, mais et puis, si vous voulez, la chrétienté, basiquement, vous avez les catholiques, les orthodoxes, les protestants, c'est assez, voilà, le milieu, enfin, l'islam, c'est très, très fragmenté, en fait. Vous citez les sunnites, les chiites, mais après,
et les
vous savez.
Les salafistes à l'intérieur.
Alors, non, mais puis après, les wahhabites, etc.
Enfin,
il y a plein. Non, mais il y a plein de courants très différents, mais même dans les communautés, vous avez, moi, je vois dans une ville comme Rennes, vous avez des traditions, vous avez des communautés, vous avez les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Chacun, même si la religion est la même, en fait, ils s'organisent aussi en communauté. Et chacun veut sa mosquée, etc. Et il y a effectivement il y a pas de clergé. Encore une fois, il y a pas de formation. Donc les imams, c'est ceux qui sont les meilleurs prédicateurs, ceux qui passent le mieux, ceux qui sont choisis par la communauté. Et une des difficultés, c'est comment on fait. On peut pas demander à la police de sécurité du quotidien de mettre un policier dans chaque mosquée pour écouter ce qui se dit au niveau du prêche du vendredi, voir si c'est conforme ou pas aux lois de la République. C'est inextricable. Moi, je comprends la volonté d'organiser tout ça, mais est-ce que c'est vraiment à l'État de dire quelle est la norme?
Pour vous, est-ce que c'est à l'État aussi aujourd'hui d'organiser ça? Et d'ailleurs, ce terme islam de France, est-ce que vous le comprenez? On ne dit pas catholique de France, on ne dit pas religion juive de France.
Catholique. Oui, on dit français juif.
Oui, mais s'il y a pas de, on dit pas catholique de France, on dit pas catholique de France. Donc voilà.
Naturellement.
J'ai évolué sur cette question, c'est-à-dire que au départ, je pensais sincèrement que l'État n'avait pas à intervenir. Aujourd'hui, je ne pense plus tout à fait exactement de la même manière, parce que je pense qu'il faut être, il faut tenir compte de la réalité dans laquelle nous vivons, de la société dans laquelle nous vivons. Et on mesure, on comprend que il est nécessaire qu'il y ait un cadre un peu institutionnel. Vous avez dit tout à l'heure, François Dorcival, que on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Si on fait rien, c'est sûr que ça marchera absolument jamais. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'il faut à la fois un cadre institutionnel, il faut à la fois réguler les modes de financement des lieux de culte et des collectes de dons. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a des financements qui viennent de l'étranger, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de l'Algérie, du Maroc, de la Turquie. Très bien, ok, je comprends qu'on n'est pas forcément à contrôler ça, mais en même temps, ces modes de financement induisent aussi des modes de pensée qui ne sont pas forcément, je vais dire, adaptés, mais je le dis vraiment, je ne veux pas le dire de façon péjorative, à notre conception républicaine qui est la nôtre. Ça, c'est le premier pan. Alors, mais il y a un deuxième pan, qui est aussi le pan de l'école.
Alors, on va en parler dans un instant. Vous savez, malheureusement, c'est la règle, on doit s'interrompre comme ça. L'info à 20h41, Julie Smul.
Trois médailles ce soir pour les Français dans ces JO d'hiver de Pyeongchang. Deux remportées aujourd'hui dans l'épreuve de poursuite en biathlon. Une en or pour Martin Fourcade, une en bronze pour Anaïs Bescon. Avec cette nouvelle médaille, ça fait trois titres olympiques en tout pour Martin Fourcade depuis le début de sa carrière. Il égale le record détenu jusque-là par Jean-Claude Killy. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, entendu aujourd'hui par la police, audition libre dans le cadre de l'enquête pour viol ouverte contre lui, des accusations qu'il conteste formellement. Cité, lui, dans deux affaires d'agression sexuelle, Nicolas Hulot, qui décide ce soir de riposter. Le ministre de la Transition écologique va porter plainte pour diffamation contre Hebdo, le magazine qui a révélé ses affaires la semaine dernière. Vers une guerre des clans dans la famille Hallyday, une guerre judiciaire, en jeu l'énorme héritage du chanteur,
mort il y a 2 mois. Ses 2 premiers enfants, Laura Smet et David Hallyday, contestent son testament. Tout le patrimoine de Johnny est censé revenir à sa femme, Laetitia, qui se dit ce soir écœurée. Attention, si vous avez acheté récemment du jambon de marque Casino, Monoprix, Le Fouet, Grand Jury ou Carrefour, leur fournisseur, l'établissement de préparation de viande Paul Prédot, rappelle des lots susceptibles d'être contaminés à la listeria. Liste complète et numéro d'information à retrouver sur le site internet de 60 millions de consommateurs.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info hier, dans une interview au journal du dimanche, Emmanuel Macron a dit s'atteler à une réforme de l'islam de France. Hein, l'islam de France, tels sont ses termes. En tout cas, François Orsival, on se souvient de Bernard Cazeneuve qui avait monté la fondation, justement, pour l'islam de France. Et Jean-Pierre Chevènement qui s'en occupe. Une association culturelle qui n'a pas encore vu le jour, qui devrait voir le jour. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'Emmanuel Macron de dire il faut que je fasse encore cette réforme parce que l'autre ne suffit pas, il faut que j'imprime ma marque. Pourquoi finalement est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle réforme?
Alors apparemment oui, puisque les institutions du CFCM, le Conseil français du culte musulman, ne fonctionnent pas. Il y a à l'intérieur des musulmans qui ont pris des responsabilités, mais ça ne fonctionne pas. Donc il faut trouver un système institutionnel, ça je veux bien rejoindre Caroline McCarry sur ce point, où on puisse avoir des règles. C'est-à-dire qu'il y a des règles de police, on expulse les imams salafistes des mosquées du même nom. Ça c'est un problème de simple police. Mais il n'y a pas que cela. Pour le moment, c'est vrai qu'il y a de l'anarchie dans l'islam de France.
Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre alors?
Le sujet du financement.
Oui,
mais le sujet majeur, c'est le sujet
du financement. Bien sûr, oui, mais on a l'impression qu'il y a
financement et formation.
Alors, les chiffres, il n'y a pas de chiffres en l'espèce, mais on va dire qu'il y a 3 à 4 millions de Français de confession musulmane. Il doit y avoir 2500 lieux de prière. Je ne parle pas de mosquées, des mosquées avec un minaret. Il doit y en avoir 100 en France. Donc, ça fait, 1200, 1300 personnes par lieu de prière, juste en comparaison, et 40 000 églises en France pour 11 millions de fidèles, globalement. Donc, ça fait plutôt 200, 300 personnes par église. Ne serait-ce que le fait qu'il puisse y avoir des lieux de culte, parce que s'il n'y a pas de lieux de culte, ça ouvre à d'autres problématiques. Donc, le sujet du financement, c'est un sujet majeur, et je pense que la priorité d'Emmanuel Macron, c'est de faire en sorte d'éviter la mainmise d'un certain nombre d'États étrangers sur l'islam en France. Et donc, si on ne met pas en place de structure, enfin, moi, j'entends le fait que ça puisse être difficile, mais pour le coup, je pense qu'on a un président de la République qui ne remet pas en cause le fait que ça puisse être difficile et qui ne recule pas devant ça, et qui se dit que effectivement, il faut tenter quelque chose pour arriver à mettre en place une structure. Ça passera probablement pas par une réforme au sens où on l'entend, parce qu'il n'est pas parti dans cet état d'esprit, et si on lit un peu ce qu'il a dit au GD2, il a dit « je le ferai par touche ».
Par touche, oui. Non, mais c'est ça qui est bizarre, normalement, il le faut gagner.
Oui, il a bien compris que c'était un sujet qui était un tout petit peu plus sensible que d'autres, et que dans l'état actuel des choses également, il fallait y aller avec beaucoup de précautions. Et je pense qu'il va essayer de trouver l'angle d'entrée, et qu'il va le faire effectivement par touche, et peut-être que le sujet du financement, qui est un sujet que tout le monde peut comprendre, est peut-être le bon angle d'entrée à l'intérieur de ce sujet-là.
Une dernière chose sur ce sujet, Stéphane Vernet, c'est ça finalement aussi sa vision de la laïcité à Emmanuel Macron. On attendait ce discours sur la laïcité. Emmanuel Macron a été très discret sur ce sujet pendant la campagne. Est-ce qu'il est là aussi?
Je ne saurais pas répondre à cette question-là. Parce que je ne sais pas quelle est la vision de la laïcité d'Emmanuel Macron. Moi, j'en ai aucune idée. Mais juste
François.
Non, parce que franchement, ses vœux au culte qui datent du début du mois de janvier contiennent tout son discours.
Mais pour vous, est-ce que ça serait important qu'il parle justement de laïcité, de faire un discours sur ce sujet?
Alors, aujourd'hui. Oui, on voit bien que c'est un besoin de la société. Il se passe des choses fondamentales autour de ces questions en France. Juste pour terminer et pour revenir sur cette réforme de l'islam, oui, il y a besoin de structurer les choses. Oui, il y a besoin de contrôler. Mais encore une fois, moi, je pense que si on en parle depuis si longtemps et si ça ne marche pas, c'est qu'il faut que les choses s'organisent. Par la base, il faut que ce soit les fidèles eux-mêmes qui décident de structurer c'est pas se substituer, c'est aider.
Mais toute la difficulté est là. C'est-à-dire que si on crée des instances qu'on veut représentatives, mais si elles viennent d'en haut, les fidèles ont l'impression qu'elles sont imposées par le gouvernement, ça ne marchera pas marcher. Tant qu'on sera dans cette dialectique-là, ça ne fonctionnera pas.
Caroline Mécari, c'est ça?
Écoutez, moi je pense qu'au-delà de ça, le véritable enjeu en réalité, c'est l'enjeu de l'école, de l'éducation à l'école. Oui, c'est-à-dire véritablement la pédagogie qui doit être effectuée à l'égard des élèves. Mmh. C'est-à-dire qu'à l'école, il n'y a aucune religion qui peut... Enfin, on ne peut pas refuser tel ou tel exercice ou tel enseignement au nom d'une religion. Et c'est... Non mais... Il y a un travail énorme à faire parce que réellement, là, je crois qu'on a perdu du terrain. Mmh. Et là, il faut former les maîtres, il faut former les enseignants pour pouvoir répondre aux élèves, leur permettre de comprendre qu'ils ont le droit de croire en ce qu'ils souhaitent, qu'importe leur croyance, mais qu'on est dans un État qui est laïque, qui permet justement cette liberté de conscience, cette liberté de penser, ou de croire ou de ne pas croire d'ailleurs, ça n'a pas tellement d'importance. Mais ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Je ne sais pas si on le mesure véritablement.
On le mesure bien, et l'enseignant le premier.
On va en parler de l'école, mais alors sur un tout autre sujet. Aujourd'hui, on va parler des capacités justement des élèves français. Je dois faire une confession, j'en profite, je suis au micro, je suis très mauvais en maths. Voilà, c'est dit, je le dis, en tout cas si ma famille écoute, fallait le dire. Mon angoisse est de perdre un jour un doigt, car sans lui je ne saurais pas comment compter jusqu'à 10. Donc c'est un vrai souci, mais la compta de France Info m'aide beaucoup, car je ne comptais jamais ma feuille de paye. En tout cas, cette lacune ne m'empêchera pas de parler du plan mathématiques et du plan bac présenté donc cette semaine, et le plan mathématiques aujourd'hui par le député La République En Marche, Cédric Villani, concernant donc les mathématiques à urgence, car selon un classement international, le niveau des élèves français dans cette matière serait le plus mauvais d'Europe. Et oui, alors 0 plus 0 égale la tête à Toto, donc là on est bon, mais le problème se situerait vraiment au niveau de la formation des professeurs, Cédric Villani.
Une des conclusions de notre rapport, de l'étude que nous avons menée avec Charles Torossian et qui a été dure pour nous, c'est de réaliser à quel point l'encadrement humain est déficient en la matière. Très peu des enseignants des écoles se sentent à l'aise en mathématiques, et c'est normal au vu de leur parcours et de leur formation. Très peu des inspecteurs et des conseillers pédagogiques aussi. Une priorité, c'est de recruter, un peu partout en France, à l'échelle des circonscriptions, qui sont les unités de base pour l'enseignement primaire, des référents mathématiques qui pourront accompagner sur place les enseignants.
Cédric Villani ce matin sur la chaîne parlementaire. Alors Xavier Alberti, il y a 80%, c'est assez étonnant, des enseignants du primaire qui viennent de filières littéraires et ils n'ont en moyenne que 24 heures de maths en formation initiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un pays encore sur le français, sur le littéraire, plutôt que le maths, on est là-dedans?
J'aimerais bien.
On
va pas dire qu'on brille non plus sur le français. Oui. La preuve qu'on n'est pas que des littéraires, parce que le député qui présente ce plan 21 points, c'est une médaille de Fields, donc c'est quand même pas rien.
C'est ça qui est incroyable. On a quand même quelques médailles Fields à notre
actif. Ce qui est intéressant, moi j'ai lu les 21 points proposés par Cédric Villani, par la commission qui présidait. Mm-hmm. C'est quelque chose de très concret, et surtout ça remet au centre de l'éducation primaire les mathématiques, en insistant effectivement sur la formation des maîtres, parce que c'est bien là que ça part, sur le fait de bien remettre l'église au milieu du village. Ça fait le lien avec le sujet précédent. En sachant que l'école, elle doit apprendre quatre choses, et je rebondis sur ce qu'a dit Caroline tout à l'heure, ça doit apprendre à compter, effectivement, à écrire, à lire et à respecter.
Mmh. Et à penser aussi, peut-être.
Bien sûr, ça vient un petit peu après. Là, je parle de l'école primaire. Elle doit aussi apprendre à respecter. Et je pense que ce que propose Villani aujourd'hui sur l'école primaire, c'est bien remettre les mathématiques dans les fondamentaux, de manière à ce que quand on arrive au collège, on ait ces fondamentaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
On parle dans un instant, on continue à en parler de cette période de rattrapage scolaire pour le gouvernement, mathématiques, également le bac. Hein, ça sera mercredi dans un instant. L'info à 20h50, Julie Smul.
Les enfants de Johnny, les deux premiers, Laura Smet et David Hallyday, contestent le testament de leur père. Tout est censé revenir à son épouse, Laetitia, son immense fortune, mais aussi ses droits d'auteur. Laetitia Hallyday qui publie un communiqué ce soir, elle se dit écœurée de l'irruption médiatique autour de la succession de son époux. Fin de citation. Gérald Darmanin, entendu aujourd'hui en audition libre dans le cadre de l'enquête pour viol ouverte contre lui. Des accusations que le ministre des Comptes publics continue de nier. Il est soutenu par Emmanuel Macron. Le président l'a dit au moment où l'affaire a éclaté. Tant qu'il n'y a pas de mise en examen, son ministre reste ministre. Nicolas Hulot, lui, va porter plainte pour diffamation contre le magazine Hebdo. Magazine qui a révélé l'existence de deux affaires d'agression sexuelle impliquant l'actuel ministre de l'écologie. triste et honteuse, selon ses mots. La numéro 2 d'Oxfam démissionne aujourd'hui. L'ONG est en plein scandale. Des responsables auraient payé des prostituées, parfois très jeunes, pendant une mission à Haïti en 2011. L'Europe menace de couper ses financements si on ne fait pas, je cite, toute la lumière sur cette affaire. Deux nouvelles médailles pour la France aujourd'hui aux JO d'hiver de Pyeongchang. Une en or, celle de Martin Fourcade à l'épreuve de poursuite en biathlon. Et puis médaille de bronze dans la même discipline aujourd'hui pour Anaïs Bescon. Trois médailles en tout ce soir pour la France.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Allez, tout le monde se met au mat. Ouais, c'est super. Et là, je mesure la cruauté de mon propos puisque vendredi, ce sera les vacances hein, pour une partie des Français, des collégiens, des lycéens, des écoliers. Il va falloir hein, se mettre aux mathématiques de plus de 4 en tout cas. Alors, François, s'il va dans un autre classement, on voyait aussi que les élèves n'étaient pas très bons en français non plus. Vous l'avez dit, Xavier Alberti. Tout revoir d'un coup. Les maths, les français, il y a quand même aujourd'hui, on entend une petite musique chez les enseignants, chez les directeurs d'établissement disant attention, doucement, on va pas tout bouleverser d'un coup pour la rentrée prochaine. Est-ce que finalement ça ne va pas trop vite dans le changement de programme ?
Non.
Non ?
Et c'est évidemment la méthode choisie par Jean-Michel Blanquer. Son arme de massive, ce sont les classements et les classements internationaux. Oui. S'il n'y avait pas de classements internationaux, on serait toujours très très content de nos classes de maths, puisque nous avions quand même dans ces classes de maths une élite qui obtenait des médailles Phil. Donc tout allait bien. Eh bien, ce sont les classements qui révèlent que ça n'allait pas du tout. Et il en est ainsi pour les maths, mais pour le français, mais pour la géographie, etc. Et donc, effectivement, il est en train de lancer en même temps, c'est cas de le dire, la réforme du baccalauréat.
Du baccalauréat, on connaîtra mercredi.
Celle de la voie professionnelle qui est en train de venir, celle de la formation des maîtres et évidemment, cette réforme de l'enseignement des mathématiques. Et là, je rejoins très très bien notre ami Xavier, parce que c'est extrêmement concret. Et pour la première fois, on comprend tout, alors que généralement, en matière de maths, je suis un peu comme vous,
ah, mince,
c'est plus difficile.
Caroline Mécari, pour vous, de tout lancer comme ça, d'un coup, en effet, la réforme du bac, ça veut dire que pour ceux, c'est le bac qui sera donc 2020, c'est-à-dire ceux qui rentreront au lycée, donc c'est eux les premiers concernés à la prochaine rentrée. Est-ce que c'est pas beaucoup d'un coup nouveau bac, nouvel programme pour les maths, pour le français.
Mais ça concerne pas les mêmes publics en réalité, donc finalement, ça me paraît parfaitement supportable. En tout cas, bon, c'est ce qui est annoncé. Il faudra voir ce qui est fait réellement. Je n'en sais rien. Là, Cédric Villani a fait des propositions. Ce n'est pas encore devenu un chantier, etc. Bon. Peut-être que ça va le devenir, j'en sais rien. Bon. Il se posera la question, comme d'habitude, toujours des moyens. Donc, ça ne me paraît pas trop d'un coup. Enfin, il y a certainement une cohérence à ces réformes, maintenant.
On verra en tout cas. Oui. Stéphane Vernet, pourquoi Jean-Michel Blanquer, c'est peut-être le seul ministre, alors on connaît d'autres ministres comme Nicolas Hulot, mais dans les tout nouveaux, pourquoi c'est le seul finalement qui a émergé comme ça? Il sera l'invité de jeudi de l'émission politique avec Léa Salamé. Pourquoi Jean-Michel Blanquer, comme ça, il a bouleversé véritablement, vous trouvez?
Mais parce qu'il est bon, il est très bon. Et puis, vous avez oublié un certain nombre d'éléments, parce qu'il est en train de tout changer, mais du sol au plafond. Parce qu'on a évoqué ce qui se passe cette semaine, mais vendredi dernier, il a participé à la présentation de la réforme de l'apprentissage.
D'accord.
Il a confié une mission à Boris Cyrulnik pour revoir la maternelle. Il y aura des assises de la maternelle en mars. Il prend toute la chaîne de tout en bas.
Il n'y a pas juste le côté vieillot chez Jean-Michel Blanquer dans le côté chorale, uniforme, Maxime, etc. Oui. Est-ce qu'on n'est pas, c'est pas un peu un figurant des choristes qui aujourd'hui dirige le ministère de l'Enseignement?
Écoutez, moi franchement, j'ai pas du tout ce sentiment-là, j'ai pas du tout cette impression-là. Moi je pense qu'au contraire, il est très dans la ligne Macron. C'est quelqu'un qui est très pragmatique, qui est très efficace.
C'est Macron qui est dans la ligne Blanquer.
Oula, si on peut. Mais en fait, si vous voulez, ce qui est rafraîchissant chez Jean-Michel Blanquer, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand il parle de son sujet, quel que soit le sujet, il s'inquiète pas ou peu des enseignants, des parents, enfin même s'il prend tout ça en compte, mais à chaque fois, il va vous dire la priorité, c'est l'intérêt de l'enfant, de l'élève en maternelle, en primaire, et je trouve ça intelligent, ça fait du bien, c'est-à-dire que il est capable de bousculer plein de choses. C'est-à-dire que si on restait dans le vieux système, l'ancien monde, enfin je veux pas non plus je veux pas exagérer, mais si vous voulez, la plupart du temps dans les réformes, on se dit on va pas la faire, c'est pas possible, soit parce qu'on l'a jamais fait ou c'est parce que tout le monde va nous dire non, les syndicats, les enseignants,
juste un mot pour deux réformes, le baccalauréat et
les mathématiques.
Pas les mathématiques, mais la voie professionnelle, en effet. Il interroge à chaque fois 40 000 élèves. Mmh. 40 000 élèves qui sont devant leur écran et qui répondent à des questionnaires.
Rapidement,
et
qui Xavier Alberti. Oui,
juste un point sur Jean-Michel Blanquer. C'est aussi quelqu'un qui n'a pas fait toute sa carrière en politique ou dans le ministère. Il a voyagé. C'est quelqu'un qui vient de la société civile. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement son ministère et le métier et l'enseignement et le rectorat. Et je pense que ce n'est pas du tout étranger au fait que ce soit un excellent ministre.
Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup, Caroline Lécarie, d'être passé ce soir. Merci, Xavier Alberti. La une de West France, Stéphane Vernet, demain.
La une de West France, demain, c'est Cosinus de 812. En fait, c'est les maths, la réforme.
Ah bah voilà, exactement.
François Orsibal.
Ah bah justement, là, c'est incroyable. Quel succès.